Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Terre de Mix pour un nouveau numéro de Un Disque, Une Histoire. Aujourd'hui on va s'intéresser au Pink Floyd et plus précisément à l'album Dark Side of the Moon. Bonjour Max, comment vas-tu ?
Bonjour Bruno, je vais très bien, toujours heureux d'être là.
Alors Un Disque, Une Histoire, vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'un disque et aujourd'hui on va s'intéresser donc à Pink Floyd et Dark Side of the Moon. Est-ce que déjà tu peux nous planter le décor de cette époque-là pour les Pink Floyd, où on en est, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
D'accord, donc les Pink Floyd. Alors, le disque, il est élaboré en 1972. Il va être élaboré entre juin 72 et décembre 72, janvier 73. Il va sortir en 73. Il va être élaboré durant 6 longs mois, mais c'est pas comme les Beatles la dernière fois où j'ai expliqué que les Beatles étaient restés 6 mois en studio. Là, ça rentre et ça sort. Hein. Donc, c'est sur une période de 6 mois. Les Pink Floyd sont en tournée très très souvent. Ils vont faire un film, ils vont faire plein de choses. Mais donc, il rentre en permanence en studio et durant ces 6 mois. Et ce qu'il faut dire, c'est que le disque aura été préalablement joué durant une année entière sur scène. C'est-à-dire, les morceaux du disque sont parfaitement maîtrisés par les Pink Floyd lorsqu'ils rentrent en studio. Donc, ils ont une maîtrise complète des morceaux qu'ils ont en plus en concert sur lesquels ils auront en fait improvisé énormément. Donc, ils maîtrisent parfaitement les morceaux lorsqu'ils rentrent en studio et donc, ils vont s'atteler au son et à la recherche sonore. Ce disque va être durant toutes les années 70, après 73. Lorsque vous vouliez acheter une chaîne Hi-Fi et que vous alliez dans un magasin de chaîne Hi-Fi, le vendeur vous faisait écouter Dark Side of the Moon. C'était le disque à partir duquel on mesurait la qualité sonore d'une chaîne Hi-Fi. Ce disque est l'alpha et l'oméga de la recherche sonore de cette époque. Donc, il est très connu par rapport à ça. C'est en même temps une merveille mélodique, musicale, de recherche, etc. C'est la première fois que les Pink Floyd vont faire un concept album. La première fois qu'il y a une histoire qui est racontée du début à la fin. Et c'est la première fois aussi que les Pink Floyd vont avoir un véritable succès en vente, puisque c'est le troisième disque le plus vendu au monde dans l'histoire du disque. Hein, je rappelle, le plus premier c'est Thriller de Michael Jackson, le deuxième c'est Back in Black d'AC/DC, et le troisième c'est donc Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon qui va se vendre à 45 millions d'exemplaires, on estime à ce jour. On sait en fait même plus, hein, c'est entre 45 et 50 millions. Et ce disque va rester durant 14 ans au sein des charts dans les meilleures ventes, entre 1973 et 1987, c'est vous dire. Hein. Et après le concert des Pink Floyd en 2005, vous savez, il y aura une reformation des Pink Floyd, la vente du disque va faire un bond en une semaine de 3000%, pour vous dire. C'est-à-dire qu'on n'oublie jamais ce disque, voilà. Donc il revient. Alors, si vous voulez, je vais te planter plutôt le contexte un peu de l'histoire.
Exactement, ouais, c'est un peu ça. Parce qu'il y a quand même une grosse différence, et on va le voir, je pense que tu vas nous l'expliquer, mais entre, on va dire certains mouvements ouvriers et on va dire le côté un peu bourgeois que pouvaient avoir les Pink Floyd. On va rentrer un petit peu dans le détail. C'est très différent, par exemple, si on prend les Beatles et les Pink Floyd, ils ne viennent pas du même monde, par exemple.
Non, absolument pas. C'est-à-dire que l'archétype du groupe anglais des années 60, c'est des jeunes prolos, des quartiers populaires de Londres, de Liverpool, de Manchester, etc. Bon. Les Pink Floyd, absolument pas. Les Pink Floyd, ça vient de Cambridge. Au départ, donc, vous avez trois jeunes qui sont très souvent ensemble, étant jeunes, enfants. Ils s'appellent Roger Waters, Syd Barrett et puis David Gilmour. Voilà. Donc, ce sont des jeunes qui se connaissent très bien. Le plus vieux et Roger Waters, ils viennent tous du milieu bourgeois, intellectuel de Cambridge. Donc Cambridge est l'une des plus grandes villes au monde par rapport à son université, par rapport à son école de mathématiques, etc. Et donc les Pink Floyd viennent de ce milieu-là. C'est ça qu'il faut déjà bien comprendre, c'est pas du tout le milieu habituel. Je crois que l'autre groupe dans le rock connu qui vient un peu du même monde, là c'est Genesis, si vous voulez, hein, qui viennent eux en plus d'une région en campagne anglaise. Bon. Mais on n'est pas du tout dans la culture rock'n'roll du milieu ouvrier. Voilà. Et ce sont trois jeunes qui vont avoir des itinéraires très différents, c'est-à-dire qu'ils vont se séparer. Gilmour, lui, si vous voulez, c'est le fils d'un scientifique, un peu, aujourd'hui, on aurait dit très en fait, bourgeois, bohème, quoi, vous voyez. Donc, lui et sa femme vont en fait partir aux États-Unis lorsqu'il n'a que 12 ans et ils vont le laisser seul dans sa famille. Mais lui, il va vraiment très bien le vivre. David Gilmour, il a un côté rêveur. À 16 ans, il va prendre la route, il va aller dans le sud de la France, il va vivre longtemps dans le sud de la France, etc.
Il est assez bohème.
Très bohème, hein, David Gilmour. Roger Waters, lui, alors lui, c'est autre chose. Il a une mère institutrice, mais l'institutrice britannique de ces, je veux dire, années-là, très rigide, très sévère. Il a un père qui est mort à la guerre et son père va revenir dans une multitude de disques des Pink Floyd. Enfin, la mort de ce père est un véritable drame personnel pour lui qui va le hanter sa vie entière encore aujourd'hui. Voilà. Donc, il va être élevé par une mère très, très sévère. D'ailleurs, il va se... Dans plusieurs disques, après, il va parler de ce côté extrêmement militaire de l'éducation britannique. Mais lui-même aura un comportement extrêmement militaire dans le groupe. Hein. On verra après. Et puis, Syd Barrett. Alors, Syd Barrett, c'est au départ le génie du groupe. C'est le génie du groupe. C'est un enfant, lorsqu'il est jeune et enfant, d'abord très beau. Ils sont tous beaux. Hein. Gilmour aussi, il était vraiment très très beau. Mais lui, il est superbe. Il est poète, il est musicien, il est dans un milieu un peu artistique. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que... Enfin, ce qu'on ne sait pas et qu'on va découvrir après, c'est que dans la famille de Syd Barrett, il y a de la maladie mentale, il y a de la souffrance. Lui-même, je ne suis pas persuadé qu'il le sache très bien. Si bien que, voilà, c'est le crime originel du groupe, si vous voulez. Lorsque le groupe va se créer, en 66, Syd Barrett va en être le leader. Comme beaucoup de groupes de cette époque, de groupes psychédéliques, là en plus, il va toucher à la drogue de l'époque, le LSD. Cette drogue s'en va activer des parties du cerveau qui ne le sont pas. Et lorsque vous avez des choses qui sont enfouies à certains endroits et qu'on ne veut pas voir et que là, on les sort d'un coup, bah, il se passe des choses qu'il ne fallait pas qu'il se passe. Donc, Syd Barrett va en fait devenir fou, quoi. Hein. Alors qu'il est le leader du groupe, le groupe va donc abandonner Syd Barrett et va reprendre David Gilmour. Alors, là, je fais un aparté, mais... Le groupe au départ, donc, c'est qui? C'est Roger Waters, Syd Barrett. Et Roger Waters donc, part à Londres, à l'école polytechnique de Londres. Donc, il étudie en fait, l'architecture et il va découvrir deux autres personnes avec lui en école d'architecture, de milieu bourgeois là encore. Nick Mason, Rick Wright. Et donc, ils vont créer un groupe en école d'architecture qui s'appelle les Architectural Abdad. Bon, c'est très dans le schéma psychédélique de l'époque. Plus ça veut rien dire, mieux c'est. Plus c'est étrange, mieux c'est. Bon, plus on peut faire plus on peut épiloguer sur un mot, voilà, chercher le sens, mieux c'est pour eux. Bon, lorsqu'ils vont se retrouver avec Syd Barrett et monter les Pink Floyd, donc à 4. En fait, il y a une légende en France qui dit que Pink Floyd, ça voudrait dire flamant rose. Non, là, c'est faux. Ça ne veut pas dire flamant rose en anglais, Pink Floyd. Un flamant rose en anglais, c'est flamingo, ouais. Non, Pink Floyd, c'est parce qu'il y a deux musiciens de blues américains qui s'appellent Pete Anderson et Floyd Council. Et les Pink Floyd sont des amoureux de blues. Voilà. Leur musique originelle à eux, c'est le blues. Ils ne viennent pas du rock, ils viennent du blues.
Et ce qui fait aussi une différence avec les Beatles, par exemple.
Voilà, avec les Beatles. Ce qui fait un point commun avec les Stones. C'est-à-dire que dans ces groupes des années 60, on n'est pas Beatles ou Rolling Stone, on est rock'n'roll ou blues. Voilà. Si vous êtes Clapton, les Yardbirds, Jeff Beck, Jimmy Page, Led Zeppelin, vous venez du blues ou les Stones. Si vous êtes Beatles, si vous êtes les Kings, si vous êtes les Who, vous venez du rock'n'roll. Voilà, hein, c'est les deux grands courants. Voilà, ça ne veut pas dire que les uns et les autres n'aiment pas ces deux musiques. Hein, mais voilà, leur influence est là. Les Pink Floyd sont influencés par le blues. Alors, ils vont inventer la musique planante, ils vont être des précurseurs des musiques psychédéliques, mais leur influence majeure, c'est le blues, d'où leur nom. Voilà, donc pour vous faire entendre les débuts de Pink Floyd, je vous propose de vous faire entendre, mais là c'est en concert, une chanson qui s'appelle Astronomy Domain, qui est une chanson écrite par Syd Barrett, qui vous montre un peu le climat de l'époque. Donc on adore la science-fiction, on adore ça. On passe des nuits entières à Stonehenge, à guetter si les soucoupes volantes vont arriver, sous LSD. Voilà, c'est...
Donc une étoile devient une soucoupe violente.
La science-fiction à l'époque, elle est partout présente, hein, dans le rock. On adore ça, bon. Et d'ailleurs, les concerts des Pink Floyd se passent dans un lieu qui s'appelle l'UFO. Vous voyez, qui signifie en anglais, je ne sais plus trop bien, etc. Mais qui a à voir avec justement le monde des soucoupes volantes. Bon. C'était un club underground à Londres qui va être connu grâce aux Pink Floyd. D'ailleurs, après que les Pink Floyd y soient passés, après ça, en fait, ils fermeront deux ans après. Mais durant tout le temps du début des Pink Floyd, c'est les Pink Floyd qui vont faire connaître le lieu. Ce sont des lieux de performance musicale, de projection, de films, d'images, de photos, de lumière, etc. Le but du psychédélisme étant bien les perceptions sensorielles, hein, d'éprouver ça. Tout ce qui est perception sensorielle, voilà. Donc ça, voilà, je vous fais entendre ce morceau. Ça vous met dans l'ambiance psychédélique du Pink Floyd du départ.
D'entendre cet extrait, donc ce morceau, donc pour voir un petit peu l'univers là pour le coup de Syd Barrett, mais il est à noter quand même qu'il y a une rupture à un moment, puisque malencontreusement, on va dire, c'était pas leur choix principal ou en tout cas premier, mais le groupe Pink Floyd a donc décidé de se passer des services de Syd Barrett. Est-ce qu'on peut raconter cette rupture justement qui a eu lieu et le changement de, on va dire, de prise de direction des Pink Floyd, et notamment la main de Waters qui va venir commencer à prendre un peu ses jalons sur Dark Side of the Moon.
Alors, bon, il va se passer beaucoup de disques avant Dark Side of the Moon. Hein. Avant Dark Side of the Moon, il va se passer exactement 5 disques. Donc, après le premier disque, C'était Pink Floyd, oui, en effet, Syd Barrett tourne mal, on peut pas dire autrement. Il va rentrer dans la folie, hein. Il va vivre chez sa mère jusqu'à sa mort en 2006, il va devenir obèse, il va perdre pied avec la réalité. Les Pink Floyd vont quand même l'aider à sortir deux disques magnifiques, dont un qui s'appelle Opel, que je vous conseille à tous d'écouter, qui est une merveille. Et dans le milieu du rock, c'est un petit bijou, un petit trésor, qui est vanté aussi bien par les Sex Pistols que par Bowie, que par des gens comme ça, vous voyez. Mais bon, donc immédiatement à partir du deuxième disque, on fait revenir David Gilmour. C'est-à-dire qu'on va demander à David Gilmour de venir suppléer au départ Syd Barrett en concert. Donc ils vont être au début deux guitaristes. Et un jour, les Pink Floyd racontent que voilà, ils ont un concert le soir, ils doivent passer prendre Syd Barrett et ils décident qu'ils ne vont pas aller le chercher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Syd Barrett était sur scène immobile, ne faisait qu'un accord durant tout le concert, regardait fixement devant lui, il avait perdu pied. Ouais. Mais je crois que ce sera un acte terrible par rapport à ce groupe, c'est comme s'il l'avait tué, vous voyez, dans leur esprit. Et je pense que la mort est toujours présente dans le rock. Elle rôde, quoi. Et bien souvent, il faut qu'il y ait une mort. Donc là, c'est parfois une vraie mort, malheureusement. Des fois, c'est une mort plus un symbole, quoi. C'est plutôt une mort symbolique pour que le groupe puisse prendre un départ. Vous voyez, chez les Beatles, par exemple, on ne le sait pas, mais un des Beatles qui s'appelait Stuart Sutcliffe est mort à 21 ans à Hambourg, alors qu'il jouait sur Hambourg, vous voyez, avec le premier groupe des Beatles, parce que les Beatles, au début, étaient 5. Il y a bien souvent un mort dans les groupes de rock, malheureusement. Donc là, le mort, en l'occurrence, ben, ça va être Syd Barrett. Et donc, mine de rien, c'était quand même lui l'auteur-compositeur du groupe, quoi. Bon. Et donc, ils vont se mettre là ben, à chercher leur voix, parce que leur premier disque fait quand même un tabac en Angleterre. Et bien donc, il faut qu'ils inventent leur voix, et ils vont se mettre à chercher leur voix. Et ils vont la chercher longtemps. Ils vont la chercher à travers beaucoup d'expérimentations sonores. Et derrière là, ces expérimentations sonores, ces rythmes lents, un peu chamanes, mélange de musique étrange qui viennent d'ailleurs, qui font planer, avec le tout teinté de blues, avec à la fois des influences classiques, des bruitages, etc. Ça va donner une série de disques extrêmement intéressants. Donc il y en a qui sont très connus, il y a la musique du film Mort, dont en fait, on vous fait entendre un extrait, Dramatic Theme par exemple. Il y a des disques comme Umaguma, et le dernier disque avant Dark Side of the Moon, il s'appelle Middle, et là on sent qu'ils sont en train de se rapprocher quelque chose. C'est-à-dire que durant ces années 68-72,
ils se cherchent,
mais ils cherchent. Voilà, ils font un vrai travail de recherche sonore. Ils sont très appréciés du milieu intellectuel, culturel, artistique. Ils vont accompagner sur scène des groupes de danse contemporaine, par exemple, comme les Palais de Marseille en France, vous voyez, bon. Donc, ils sont très connus, ils vont faire de la musique de film, là pour Antonioni, par Bette Schroeder, etc. Mais bon, voilà, au niveau de la vente de disques, c'est quand même assez discret, vous voyez, je veux dire. Les Pink Floyd, ça va devenir des mecs qui avaient des payes de cadres supérieurs à des multimillionnaires, quoi. D'un coup, par le disque Dark Side of the Moon. Alors, lorsqu'on arrive à Dark Side of the Moon, ils sont tous assez âgés. C'est-à-dire que le plus vieux, c'est Roger Waters, il a 29 ans, ce qui est vieux dans le rock.
Il est toujours vivant.
Et Gilmour, lui, en fait, il a 25 ans. Vous voyez, pour que vous ayez une idée. Bon. Il y a un musicien qui sort du lot, c'est David Gilmour, qui, au fur et à mesure, développe une technique et un son incroyable qui va prendre tout son essor à partir de Dark Side of the Moon. Et pour moi, Dark Side of the Moon, c'est la découverte d'un guitariste immense, David Gilmour. C'est aussi la découverte d'un parolier, Roger Waters, qui va se mettre à écrire des paroles extrêmement sociales et philosophiques. En même temps, très noir, hein, c'est un disque noir, hein, Dark Side of the Moon. C'est pas une belle vision de l'homme et de l'humanité. Et puis, vous avez les deux autres musiciens qui sont deux véritables compositeurs aussi. C'est-à-dire que Pink Floyd, c'est une véritable coopérative de composition. Donc, vous avez de quoi produire du matériel, à plus savoir quoi en faire. Et c'est ça qui va en fait créer à un moment donné la tension et le trouble entre eux. C'est que ils vont être très longtemps une entreprise très démocratique. Et à un moment donné, ils ne le seront plus. Ça va être Waters qui va prendre le manche en disant bah, on fait ce que je décide moi. Voilà. Mais donc, ce disque lorsque ce disque arrive, ils sont au summum de leur collaboration. Ouais. Ils sont à leur summum musical en tant qu'instrumentiste. Et puis, ils bénéficient des progrès techniques de l'époque. Voilà. Alors, ce disque est enregistré en 16 pistes. Aujourd'hui, ça fait rire, mais à l'époque, c'est ce qu'il y a de plus gros, hein, 16 pistes. Voilà. C'est enregistré au studio Abbey Road, donc le fameux studio des Beatles. Et vous avez deux ingénieurs du son des Beatles, un qui s'appelle Scott Thomas, qui est très connu. Il va, par exemple, enregistrer les Sex Pistols, vous voyez, donc il sait faire aussi bien ça que les Sex Pistols. Et puis, un autre qui va faire carrière après en tant que musicien, qui s'appelle Alan Parsons.
D'accord.
Donc, il va créer un groupe qui s'appelle Alan Parsons Project, qui va faire de la musique un peu planante, un peu psychédélique lui aussi. Mais donc, sur le disque, il est ingénieur du son, mais il va être presque coproducteur, quoi.
Préciser que c'est Martin qui a formé notre ami Alan Parsons.
Oui, il a été formé par George Martin ainsi que Scott Thomas aussi, mais ainsi que Glyn Jones, ainsi que plein d'autres.
Les grands sondiers de l'époque, oui.
Jeff Emmerich, etc. Enfin, une multitude de producteurs et d'ingénieurs du son vont être formés au studio Abbey Road par Martin et son équipe. Et, hein, c'est parce qu'il n'est pas tout seul. Voilà. Donc, je te propose qu'on rentre dans le disque, quoi.
Moi, je suis d'accord.
Alors, ce disque, il commence par un morceau qui n'est pas un morceau, qui s'appelle Speak to Me, Parle-moi, qui est un battement de cœur. Vous voyez, donc, on est donc déjà dans une vie qui naît. Et ce battement de cœur, on va l'avoir à la fin du disque aussi. En fait, tout au long du disque, Roger Waters, qui écrit toutes les paroles, aborde des sujets propres à l'humanité, aussi bien la violence, l'argent, la folie, l'amour, vous voyez. Il aborde ces sujets-là et il les traite aussi musicalement. Dans ce disque, il y a déjà une utilisation très forte des synthétiseurs, notamment un synthétiseur dont j'ai oublié le nom, que je vais aller chercher. Ouais, c'est un synthétiseur qui s'appelle le VCS3. C'est un synthétiseur de recherche. C'est un synthétiseur qui n'a même pas de clavier. C'est un clavier tactile sur lequel on pose les doigts comme ça. Il va y avoir énormément de bruitage dans le disque. Je vous dis pas le travail de, en fait, mixage qu'il va y avoir, qui est incroyable. Ça, c'est un premier aspect du disque. Un deuxième aspect du disque, c'est que le blues est partout présent, l'influence blues et gospel, et notamment on l'aura donc à travers la fameuse guitare de David Gilmour, parce que lorsqu'on analyse les gammes jouées, c'est, ce sont des gammes de blues. Et puis les chœurs, qui sont des chœurs féminins, magnifiques. Et notamment dans les chœurs, une choriste qui s'appelle Claire Tory, dont on parlera lorsqu'à un moment donné on arrivera au morceau The Great Gig in the Sky.
Alors, il y a aussi une autre anecdote, parce qu'il y a un moment dans le disque, il y a un travail autour des pendules, des horloges qui sont, à un moment ou un autre, d'ailleurs on va peut-être l'entendre, il y a un calage volontaire. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote, parce que c'est un gros travail de recherche, je crois.
Oui, parce que c'est un morceau qui s'appelle Time, donc à l'époque, on n'a pas les ordinateurs en studio, les amis, donc ils vont aller enregistrer 30 horloges différentes, ils vont les faire sonner. Ils vont toutes les enregistrer une après l'autre. Mais après ça, il va falloir caler tout ça sur un 16 pistes, ouais. Et faire démarrer les choses dans les temps pour qu'il y ait une harmonie de l'ensemble des horloges lorsqu'elles sonnent. Donc, qu'on vous fait entendre là, c'est un véritable exploit technique à l'époque, mais ça montre un artisanat très fort. Donc vous avez, après la sonnerie des horloges, le son du synthétiseur avec les rototomes de Nick Mason. Et Nick Mason est un batteur vraiment intéressant, moi je trouve, parce qu'il fait partie de ces batteurs qui n'ont pas une grande technique, mais qui ont un univers. C'est-à-dire qu'avec ceux qui savent faire, ils inventent quelque chose qui est à eux, rien qu'à eux.
Ils sont précurseurs de style, en fait, finalement, dans les techniques qu'ils utilisent.
Exactement. Et lui, c'est une technique très percussive, où on joue beaucoup sur les tomes, en permanence, où ça rebondit sur les tomes. Donc là c'est sur des rototomes et je trouve que c'est vraiment superbe, quoi. Alors, ensuite, on enchaîne avec ce fameux morceau, avec le solo de guitare que je vous fais entendre là. Attention, ça part. Ça tue un solo comme ça. Pour moi, c'est vraiment le plus grand. Enfin, David Gilmour, c'est mon guitariste préféré. C'est celui qui me touche au cœur lorsque j'entends un solo pareil.
Parler sa guitare, en fait, hein. C'est pas un déballage de technique, c'est une maîtrise, et sa guitare raconte quelque chose.
C'est un cri.
Voilà, c'est ça la force aussi des grands guitaristes. C'est peut-être pas la bête technique, mais il y a ce qu'il faut. La note, elle est cherchée, le son est cherché aussi, et il se passe quelque chose. Il y a une émotion qui se passe au travers de ces guitares, et c'est ça aussi qui fait les grands groupes, hein. Un grand groupe sans un guitar hero, c'est pas un grand groupe, entre guillemets. Voilà, à l'heure actuelle, ça se fait beaucoup moins, hein. On a plus ces choses là à l'époque, ça se faisait beaucoup. Il y a un petit truc qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont amené d'autres sonorités. Je pense au saxophone, par exemple. Le saxophone qui n'est pas encore tout à fait présent dans le rock pur et utilisé comme instrument solo, par exemple. Et les Pink Floyd, eux, ont essayé de l'utiliser différemment. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots ?
Oui, alors ça, on vous le fera entendre dans deux morceaux. C'est avec Money et puis Us and Them, deux morceaux qu'on va vous faire entendre après. Le saxophone, il a toujours été présent, hein, dans le rock. D'ailleurs, il est très, très, très présent dans le rock'n'roll, dans le rockabilly des années 50. Il est vraiment très, très présent, mais il est plus...
Il est plus rythmique que
mélodique. Mais la subtilité de Pink Floyd, c'est qu'il va en faire un instrument planant. C'est-à-dire que Pink Floyd invente vraiment la musique planante, alors avec d'autres, avec des gens comme Tangerine Dream, Klaus Schulze, qui sont des groupes allemands, vous voyez, qui vont beaucoup utiliser les synthétiseurs. Même quelqu'un comme Jean-Michel Jarre va faire à un moment donné de la musique un peu planante, mais c'est vraiment eux les précurseurs de la musique planante. Et on pensait pas que le saxophone pouvait être un instrument planant, mais ils en font un instrument planant. De toute façon, chez les Pink Floyd de cette époque, tout plane, même les voix des chanteurs. Lorsque vous entendez David Gilmour chanter, c'est incroyable, même sa voix, elle fait planer, quoi. Voilà. Alors, vous avez un moment dans le disque Raging in the Sky, là, il faut expliquer. C'est-à-dire que ce disque, au départ, est un magnifique morceau de piano. C'est une pièce de piano écrite par Rick Wright, qui, lui, est inspiré par le jazz. C'est un magnifique moment de piano qui a été écrit pour le film de Antonioni, Zabriskie Point. Et il va le reprendre pour l'intégrer dans le disque. Alors là, donc, il n'y a plus le morceau de piano tout seul. Il est accompagné par un pédal steel qu'on entend. C'est pareil, on fait d'un pédal steel un instrument planant. C'est quand même incroyable. Il y a un orgue à mon B3 avec une sonorité magnifique, une basse et une batterie très percussive. Donc il joue le morceau, il l'enregistre, bon. Et c'est Rick Wright qui dit, c'est étrange, il manque quelque chose, voilà. Il dit, je verrais bien une voix humaine, bon. Un vocalise. Donc, là, c'est Waters qui va prendre ça en main, parce que c'est lui qui a les textes du disque et le propos du disque, donc il veut que voilà, ça ait un sens. Donc parmi les choristes, donc il y en a une qui s'appelle Claire Torrey, elle est serveuse à Londres, hein, dans un bar. Ils les ont découverts à Londres dans un bar, bon. Donc ils les embauchent, ils sont payés 30 livres à la séance, ce qui est beaucoup à l'époque. 30 livres, c'est énorme, hein. Ça fait je sais pas moi, au minimum un SMIC quoi d'aujourd'hui, vous voyez, ça fait bien 1100 euros, quoi, bon. Donc, on lui dit, écoute, est-ce que tu pourrais essayer de faire une vocalise sur ce morceau? Donc, imaginez-vous la scène. Voilà. Vous avez les Pink Floyd dans la régie au studio Abbey Road. Le morceau est enregistré. Donc, vous avez aux manettes Alan Parsons. Et donc, on lui met le casque sur les oreilles, à cette jeune personne.
Et on lui dit, vas-y.
Alors, on lui donne quelques mots.
Ah, oui, on c'est lui vrai. Donne ça, quelques c'est important. Mots. Très, très important.
On lui dit, voilà, il faut que tu exprimes la vie, le plaisir, le sexe, la douleur, la mort.
Avec ça, démerde-toi.
Et voilà ce qu'elle fait. Imaginez ce qui se passe à la sortie. Elle voit dans la régie du studio les musiciens et les ingénieurs du son pétrifiés qui ne bougent plus.
Ils sont scotchés
et ils ne bougent plus. Plus personne ne bouge. Elle retire son casque et elle s'enfuit. Alors, les studios à Abbey Road, là, il y a un étage, vous voyez, derrière. Donc elle descend l'étage et tout le monde est pétrifié. Et à un moment donné, on se rend compte qu'elle est partie, quoi. Donc ils partent après, ils lui courent après. Et elle dit, j'ai honte de ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'elle a mis tellement d'elle, là, vous voyez, c'est ça l'artiste. Hein. C'est à un moment donné, exprimer des choses inexprimables que même soi. Enfin, il exprime pour nous des choses qu'on ne pourrait pas exprimer nous-mêmes. Là, c'est l'artiste qui se met à nu, quoi. Et donc, qui touche à l'émotion. Voilà. Ils lui ont dit, mais non, mais reviens, là, ce que tu viens de faire est extraordinaire. Donc, ce que vous avez entendu là, c'est la première prise.
Une prise pour faire
une
ça.
Seule prise.
Une seule.
De toute façon, c'était impossible après de t'en faire une autre. C'était complètement impossible. Voilà. Donc elle aura été payée royalement 30 livres. Le disque va se vendre à 50 millions, comme je vous ai dit. En 2005, elle va quand même intenter un procès au groupe et elle va gagner de l'argent parce que depuis 2005, elle est créditée donc, par rapport à la chanson. C'est-à-dire qu'on en fait une auteure à part entière de la chanson. On ne sait pas combien ce qu'elle a touché, mais à mon avis, c'est des millions, quoi. Voilà. Mais voilà, une histoire incroyable du rock, quoi. Voilà, comment est-ce qu'on en une prise, on sort un truc pareil.
C'est ça la magie, justement, de la musique. On continue avec un autre morceau, bon, qui est peut-être le plus connu, on va dire, même les petites générations ou nos générations connaissent ce titre. Je veux parler de Monet, mais à moins que tu voulais peut-être travailler sur un autre titre avant.
Non. Moi, je voulais aussi parler de Monet. Monet, c'est à l'époque le premier tube du groupe. Ils n'en ont jamais fait. Il va être mis en 45 tours, alors qu'il dure quand même 7 minutes. Un peu plus de 7 minutes. Donc, il n'est pas du tout dans les formats du parade.
Ouais, 3:30 normalement.
Voilà, mais donc, ils vont quand même le mettre. Ça va être. Alors qu'ils vont vendre 50 millions de disques, 33 tours, vous voyez, ils vont en vendre très peu. Enfin, en 45 tours, c'est pas du tout un groupe qui vend du single, hein, les Pink Floyd. Hein, c'est un groupe qui vend des
albums. De l'album.
Voilà. Mais donc. Ça a été conçu aussi pour être une chanson qui puisse passer à la radio. Quoi, voilà. Alors, cette chanson, elle est. Comment dire. Elle est faite extrêmement paradoxale, puisque les Pink Floyd, si vous voulez, lorsqu'ils écrivent cette chanson, ils donnent tout leur mépris de l'argent et de ceux qui aiment l'argent et de l'argent qui régit le monde, etc. Et ils vont devenir multimillionnaires. D'ailleurs, je pense qu'ils vont jamais être à l'aise avec ça. Hein. Ils vont en fait jamais être à l'aise avec cet argent. Les Pink Floyd sont un des groupes de rock les plus philanthropes. Ils vont donner énormément à des œuvres de charité, hein, énormément. Voilà, encore aujourd'hui. Là, c'est dire à quel point cette chanson est un véritable paradoxe. Quoi. Ils s'attendaient jamais à voir le succès qu'ils vont avoir avec ce disque et après, puisque tous les disques qui sortiront après vont se vendre en millions d'exemplaires.
Oui, ça a été un peu l'élément un peu déclencheur et Monet est une bonne marque de fabrique du nouveau son, j'ai envie de dire, Pink Floyd. Ce qui est intéressant aussi, c'est la conception de ce morceau, parce qu'on a une utilisation du temps et du rythme et un déphasage du rythme qui est très intéressant et une technique qui à un moment nous permet de retourner sur un tempo, on va dire classique pour les techniciens, on va parler de 4-4. Et le morceau en lui-même, les premières mesures sont en 7-9. Donc on est sur un choix technique qui est lié peut-être à la mélodie, mais c'est toute cette magie. Je sais que quand tu m'avais transcrit un petit peu ce ressenti, tu avais parlé de prouesse technique, parce que c'est pas évident à faire.
Non, parce qu'on commence en 7-9 par une ligne de blues, on l'entend à la basse là, hein. Voilà, en 7-9, et à un moment donné, oui, on va passer en 4-4 et on passe en rock'n'roll pur. Voilà. Attention. Voilà, clac. Là, c'est rock'n'roll.
Vous voyez un peu le principe ?
Et ensuite, on revient au 7-9. Donc voilà, c'est le batteur qui donne le signal et qui change le tempo, mais je vous assure, amusez-vous à le faire. Vous allez voir que c'est loin d'être évident. Très loin d'être évident. Vous avez entendu. Le solo de saxophone extraordinaire et guitare, la guitare de David Gilmour.
Alors, il y a un morceau que tu considères comme étant l'apogée du disque.
Ouais.
Alors, pourquoi ?
Et pour moi, c'est le péplum. Voilà, à chaque fois, je vous dis, il y en a un. Bon. Us and Them, déjà, c'est un morceau sur l'identité et l'altérité, nous et eux, vous voyez, je veux dire. Bon. Et dans ce morceau, il est question de guerre aussi à un moment donné. C'est assez terrible. C'est un morceau qui est tragique. La mélodie est magnifique. C'est encore une fois, au départ, une pièce de piano de Rick Wright qui était pour le disque d'Antonioni. Et donc là, qui va être repris pour le. Enfin, excusez-moi, qui était au départ pour le film d'Antonioni et non pas pour le disque.
Pas
là,
pour
qui
le
va
disque,
être...
mais pour le film, oui.
Donc là, qui va être repris pour le disque. C'est un morceau dans lequel il y a de l'espace, il y a du silence, voyez. Et donc on peut en fait y poser plein de choses. Donc on va y poser un magnifique solo de saxophone et les chœurs des quatre choristes qui là
prennent toute leur envergure.
Et oui, enfin, je veux dire, moi, c'est un morceau qui me donne une émotion, qui me donne une chair de poule à chaque fois, quoi.
Alors, on va l'écouter en entier, celui-ci.
Voilà, j'estime que celui qui n'est pas ému par une telle musique...
Je crois qu'il faut qu'il arrête d'écouter la musique. Une vision tragique quand même de cet album. C'est-à-dire cet album, il est loin d'être gay. Et ça commence avec un battement de cœur, ça termine avec un battement de cœur, mais ce battement de cœur, il s'arrête à un moment.
Oui, et puis il finit avec un morceau donc, qui s'appelle Eclipse, qui est une véritable... Moi, c'est ça que j'aime dans le rock, il y a une urgence... On dit, il faut dire en très peu de mots des choses essentielles que d'autres mettraient des pages et des pages à dire. C'est ça la force du rock et la beauté du rock. C'est cette urgence. C'est un art presque de l'urgence et du raccourci et de l'épure. Vous voyez. Et donc, dans Eclipse, Roger Waters énumère les actions de l'homme, tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, tout ce que tu détruis, etc. En disant, tout ce que tu fais va être éclipsé par la lune. Voilà. La lumière, le soleil est éclipsé par la lune. Donc c'est une vision tragique. Vous voyez, je veux dire, on est encore en 72, on est encore dans l'expansion économique, on est encore dans les Trente Glorieuses, on est encore dans... Le HLM pour tous, le travail pour tous, l'école pour tous et la santé pour tous. On n'est pas arrivé au stade où nous en sommes aujourd'hui. Donc on est encore emprunt de la modernité, des lumières, du siècle des lumières, etc. Et lui, il dit le soleil est éclipsé par la lune. Voilà. Il a cette intuition-là, je dirais, hein, qui est toujours une vision noire. Hein. Waters, il a une vision quand même très noire des choses. Et ça finit par ce fameux battement de cœur. Quoi. Donc, il y a eu une vie là-dedans. Voilà. À travers ce disque, on a vu une vie humaine, à travers les sentiments humains, les actions de l'homme. Mais cette action est tragique. Lorsque David Gilmour fera entendre le disque en entier à sa femme, il dira qu'elle s'était effondrée en larmes. Voilà. Moi, c'est un disque que j'écoute 2-3 fois par an, en entier.
Oui, tu conseilles d'ailleurs de l'écouter en entier.
Hein. Je conseille de l'écouter en entier. Là, c'est un sacrilège, ce qu'on fait aujourd'hui, d'en donner que des morceaux et de le couper.
On donne d'autres choses, c'est un choix.
Voilà, c'est un disque qu'on écoute en entier, 2-3 fois par an. Il faut prendre le temps, il faut s'installer, il faut l'écouter dans de bonnes conditions, avec un joli son.
Avec un petit casque pourri.
Il s'écoute fort, je pense. Voilà, parce qu'il faut,
faites gaffe
faut
à vos oreilles quand même.
Oui. Voilà, c'est un monument du rock et un monument de la musique en général.
Et moi, il y a un truc qui m'a marqué quand même dans tout ça, c'est que, alors certes, les messages sont pas optimistes, on est clair, mais il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a aucune agressivité. C'est-à-dire que on nous donne les choses et chacun, voilà, l'interprète le ressent comme il le sent, mais il ne se sent pas agressé. C'est assez marquant sur Eclipse, hein, à la fin, quand il dit les choses, il le dit pas d'une manière agressive, il le dit même limite un peu désemparé. On le ressent un peu désemparé. Mais c'est aussi, à mon avis, aussi une volonté de réveiller les consciences, de secouer. Mais il n'y a pas ce tempérament agressif qu'on pourrait avoir par rapport au rock'n'roll, par exemple, qui serait plus agressif, plus voilà, bouge-toi, réveille-toi. Là, on est sur quelque chose qui, voilà, qui est pas dans le jugement, qui se permet juste, voilà, moi je dis ce que je ressens. L'homme, tu me déçois à tel moment et à tel moment, et il le dit simplement. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, parce que bah dans le rock, on a toujours ce côté agressif, et là, les Floyd, ils ont amené aussi ce côté-là, justement, posé, de transmettre un message, mais on n'a pas besoin de hurler pour le dire, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant.
Il le dit comme ça, à ce moment-là, parce que 6 ans après, il va le dire en hurlant, ça va être avec The Wall, voilà. Et là, ouais. il va être très, très donneur de leçons. C'est-à-dire que, voilà, là, on est, je pense qu'avec Dark Side of the Moon, on est au summum du groupe, de sa créativité, du son, de l'ambiance entre eux. À partir de là, les choses vont aller de... mal en pis, voilà. Le tempérament de Waters va aussi virer. C'est-à-dire que là, il va devenir très donneur de leçons. Mais en effet, là, je dirais que dans ce disque, il conserve une certaine tendresse, quoi. Ouais. Une certaine tendresse pour l'espèce humaine en disant, ben voilà, elle est comme ça, quoi. Je dirais, je regarde ça.
Oui, c'est non, ça, c'est le constat.
Je regarde ça avec tendresse, voilà. Et lorsqu'il va regarder ça dans The Wall, il va y avoir une haine terrible, quoi. On va passer de la tendresse à la haine. Voilà.
Et comme tu dis toujours, c'est pour ça que le rock est grand.
C'est pour ça que le rock est grand.